carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
On avance dans le musée du Louvre, qui est merveilleusement vide de visiteurs et pas de splendeur, vers les tombes princières d'Anatolie, qui sont exposées dans le cadre de l'année pour la Turquie. Et nous sommes avec Nicolas Bell, conservateur au département des Antiquités orientales et commissaire de l'exposition que l'on va visiter tout de suite. Alors là, on est dans la statuaire antique.
Voilà, nous sommes au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Et nous traversons les galeries des portraits impériaux en remontant la chronologie jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Alors voilà un grand moment, puisque la Vénus de Milo est pour nous tout seul.
Pas tout à fait, car des restaurateurs s'activent autour d'elle.
Ah oui.
Comme souvent, on profite du mardi pour réaliser des opérations qu'on ne peut pas faire les jours d'ouverture au public. Voilà, et nous traversons rapidement la salle consacrée à l'île de Chypre aux époques anciennes, le Levant au deuxième millénaire avec essentiellement des objets provenant des fouilles d'Ougarit sur la côte syrienne, une salle consacrée à la Syrie intérieure de l'âge du bronze ancien jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, la salle des monuments palestiniens anciens avec notamment la magnifique stèle de Mécha, roi de Moab. C'est une des plus anciennes mentions matérielles
de
noms retrouvés dans la Bible,
oui.
Notamment David et
le
sa
roi
maison.
David, oui.
Nous ne faisons que longer la grande section des collections de l'Iran ancien, dont le site de Suse nous a donné une très riche collection. À côté de la cour Khorsabad, où sont présentés les reliefs du palais de Khorsabad, se trouve la salle accueillant le code d'Amourabi, un des... peut-être le monument le plus célèbre du département des Antiquités orientales, qui est un recueil d'articles de loi, 282 articles de loi, édictés par le roi Hammurabi de Babylone au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ.
C'est donc le premier code civil ?
Il y avait eu des essais antérieurs, mais c'est le premier recueil complet d'articles de loi d'un souverain.
Nous voici devant les tombes princières d'Anatolie. Nicolas Bell, dites-nous comment d'abord on a pu retracer l'histoire de ces tombes et en rendant hommage, je pense, aux pionniers de l'archéologie turque.
Voilà, oui, cette présentation était l'occasion pour nous d'évoquer rapidement la naissance de la Société d'Histoire Turque qui a été créée par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le fondateur de la République turque. Donc cette société a été fondée en 1930. Et sa vocation était d'étudier et de mener des recherches sur l'histoire du peuple turc et de la péninsule anatolienne, et notamment en menant des fouilles, des chantiers de fouilles. Et donc le premier chantier programmé par la Société d'Histoire Turque fut celui du site d'Alajaüyük en 1935. Donc cette fouille fut confiée au professeur Koçay et à Remzi Arık.
Et alors, pourquoi cet endroit-là ? Comment se présente-t-elle en général, l'Anatolie centrale ?
Alors, si on regarde la carte de l'Anatolie, on se rend compte immédiatement de la diversité des reliefs. Ce n'est pas une vaste plaine calme. On a affaire à, évidemment, des plaines côtières, mais surtout d'immenses plateaux centraux et des montagnes. Donc, on a quelques fleuves qui sillonnent ces plateaux, notamment le grand fleuve Közölörmak, appelé Alis par les anciens, et dans la boucle duquel se concentre le cœur de ce que sera l'Empire hittite, bien connu, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ.
Oui, c'est donc un peu plus tard. Mais je crois qu'il y avait des portes qui permettaient des contacts entre les autres régions de l'Anatolie.
Oui, on a notamment des portes au sud-est de l'Anatolie qui permettent d'entrer en contact avec le monde syrien. Et on a également, plus à l'est encore, la région de la Djezirée, qui correspond au bassin hydrographique des affluents de l'Euphrate, que sont le Balir et le Rabour, et qui est une région directement en contact avec l'Anatolie centrale.
Oui. Alors, on parlait de minerais, mais au départ, c'était comme partout, des communautés villageoises. Et quel est le statut social de ces communautés villageoises ?
Alors, le néolithique d'Anatolie, comme partout au Proche-Orient, repose sur le regroupement des populations en villages, dont l'activité principale est l'agriculture et l'élevage. L'aspect compartimenté de la région fait que ces communautés ont pu se développer de manière indépendante, sans avoir forcément de lien entre elles.
Et c'est après que s'est développée une hiérarchie sociale ?
Alors, ces communautés villageoises devaient être relativement égalitaires.
Oui.
Une communauté vivant en autosuffisance avec ses ressources agricoles n'a pas forcément la nécessité de se créer une hiérarchie sociale. On pense généralement que cette hiérarchie s'est mise en place peu à peu à la faveur du développement des échanges commerciaux.
Oui, des échanges commerciaux dus à l'activité du minerai, à l'extraction et l'échange du minerai.
Voilà, parce que ce que nous n'avons pas encore dit, c'est que l'Anatolie centrale est une région extrêmement riche en minerais.
Oui.
Son sous-sol recèle des mines de cuivre, d'argent, également peut-être d'or, en plus de la richesse que constituent les très riches forêts qui couvrent le plateau d'Anatolie centrale.
Dont on ne trouve plus trace au XXIe siècle ?
Non, effectivement, la région était certainement beaucoup plus humide dans l'Antiquité, notamment à l'âge du bronze ancien au IIIe millénaire.
Donc au IIIe millénaire, alors l'Anatolie centrale se trouve un petit peu désenclavée par les routes commerciales. Qu'est-ce qui nous permet de constater qu'il y avait des contacts interrégionaux ?
Alors effectivement, des routes commerciales sont organisées pour échanger les matières premières entre l'Anatolie riche donc en minerais du cuivre et d'argent essentiellement, et les régions qui en sont pauvres mais qui en ont besoin, à savoir essentiellement la Mésopotamie et dans un deuxième temps le monde Égéen à l'ouest. La découverte de matériaux
oui.
Dans les différents sites parle d'elle-même. On retrouve du cuivre et de l'argent d'Anatolie dans les cités de Mésopotamie du Sud.
Oui. Il y a des similitudes de style aussi.
Voilà, on a également établi des liens typologiques entre les productions matérielles d'Anatolie centrale et par exemple dans le monde Égéen. On parle souvent des fameux miroirs en bronze retrouvés oui. Dans les tombes d'Al-Hadjaouyuk et qui présentent des similitudes très intéressantes avec les fameuses poêles à frire des îles Égéennes qu'on retrouvait notamment à Syros.
Donc c'est les deux photos que nous avons là sous les yeux.
Voilà, exactement, des photos qui permettent de montrer qu'on a une similitude à la fois dans les dimensions et dans la présentation générale des objets.
Alors quel est le peuple qui occupait cette région-là ? Quels sont les princes ou les dominants qui occupaient cette région-là ? Sont-ils indo-européens ? Sont-ils sémitiques ?
Alors c'est évidemment une question délicate que nous n'avons pas tranchée ici. Ce qu'on peut dire, c'est que la culture Hatti, ce qu'on appelle la culture Hatti, est la culture qui est présente en Anatolie avant l'époque hittite. Et elle nous est connue par les restes qu'elle a laissés dans la culture hittite. La culture hittite est indo-européenne et on retrouve dans les textes hittites consacrés à la religion, au rituel, des mots qui ne sont pas indo-européens et qui font référence justement à cette culture antérieure.
Oui, ce serait donc un héritage.
Voilà.
Les Hittites seraient un peu les héritiers des Hatti.
Ils ont emprunté dans le domaine religieux essentiellement les croyances et les rites Hatti. Donc les Hittites étant assurément présents en Anatolie en 2000 avant Jésus-Christ environ, on peut considérer que antérieurement à 2000, la culture Hatti occupe l'ensemble de l'Anatolie centrale.
Oui, et puis alors tout de suite vous parliez des rites indo-européens et je crois que les tombes en fosse sont typiques des rites indo-européens. Alors comment ces tombes à fosse étaient à l'époque Hatti ?
Alors justement c'est l'origine de la controverse ou du débat pour savoir si les princes d'Al-Hadjaouyuk sont de culture indo-européenne ou de culture Hatti. Car effectivement les tombes d'Al-Hadjaouyuk ce sont des tombes à fosse, ce qu'on appelle des tombes à fosse, c'est-à-dire qu'on creuse une fosse pour pouvoir accéder à une chambre souterraine. Alors à Al-Hadja, la fosse est très peu profonde, mais on a bien cette conception de la tombe qu'on attribue généralement aux cultures indo-européennes. On en retrouve des traces, par exemple, sur les bords orientaux de la mer Noire, dans la culture du Kouban, avec notamment les fameuses tombes de Maïkop.
Dans le Caucase. Oui, les sépultures des princes caucasiens, c'est ça, oui.
Et on retrouvera également ce type de sépulture un petit peu plus tard à Mycène, dans les cercles funéraires de Mycène.
Et alors, bon, revenons à nos fouilles. Vous disiez tout à l'heure qu'elles n'étaient pas très profondes. À quelle profondeur les archéologues ont-ils découvert cette nécropole? Et puis, quels sont les rites funéraires qui ont été mis à jour?
Alors, effectivement, les fouilles d'Ala Choyuk en 1935 se sont portées sur le centre du village qui occupait à ce moment-là les ruines de la colline. Et les archéologues ont traversé les différents niveaux pour remonter dans le temps. Et à environ 5,50 m de profondeur, sont tombés sur des vestiges de l'âge du bronze ancien. Ces tombes qui ont été découvertes sont datées entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ. Ce qui a rendu célèbre immédiatement ces fouilles, c'est d'une part la somptuosité du matériel dont on va reparler, mais également les éléments de rituel qui étaient tangibles sur ces vestiges funéraires.
Alors quels sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qui est si étonnant d'ailleurs? C'est la première fois que des archéologues découvraient ce genre de sépulture?
Je pense que c'est un des premiers chantiers bien documentés où on a découvert du mobilier en place permettant de parler de rituels. On avait évidemment auparavant, au début du XXe siècle, découvert les fameuses tombes royales d'Ur, dans le sud de la Mésopotamie, grâce à l'archéologue anglais Leonard Woolley, qui sont très somptueuses et qui révélaient des pratiques funéraires caractéristiques. Mais ici, les archéologues ont découvert à la surface des tombes, sur des madriers de bois qui constituaient le plafond des tombes, des éléments de bovidés qui avaient été manifestement sacrifiés lors des funérailles et dont on avait prélevé les crânes et les pattes pour les disposer par paire, deux par deux. On trouve de 2 à 8 têtes de bovidés avec les pattes correspondantes qui étaient soigneusement alignées à la surface de la tombe. On pense que vraisemblablement le reste du bovidé était consommé par lors d'un repas funéraire.
Oui, c'est une hypothèse qui est assez...
Qui est très plausible.
Plausible, parce que c'est un phénomène assez classique dans toutes les cultures, funéraire.
On a retrouvé à proximité des tombes des ossements, des crochets qui ont peut-être servi à tenir les quartiers de viande.
Oui. Et alors, revenons, le dispositif des têtes et des pattes, comme vous disiez tout à l'heure, n'est pas lié au hasard. Mais la symbolique est peut-être un petit peu difficile à présenter avec assurance, parce que c'est une civilisation qui n'a pas les cris. Il faut bien qu'on précise ça, ce qui ne facilite pas les choses.
Voilà, on en est réduit à interpréter les découvertes archéologiques à partir du moment où il n'y a aucun document écrit pour cette période en Anatolie centrale qui nous permettrait d'assurer la signification de ce mobilier.
Alors le défunt, lui, comment se présentait-il? Avait-il des bandelettes? Avait-il une position particulière? Était-il tout seul?
Alors les 13 tombes découvertes à Ala Choyuk présentent la même disposition intérieure. C'est-à-dire que dans la chambre, dans un angle de la chambre, se trouvait le défunt qui était à chaque fois couché sur le côté droit, les jambes repliées en position fœtale, et qui portait ses vêtements sur lui. Il portait ses vêtements sur lui, étant donné la disposition dans laquelle on a retrouvé une partie des bijoux et des ornements de vêtements.
Oui, donc il n'y a pas du tout de momification.
Non. Le défunt était disposé avec ses vêtements, éventuellement un linceul, mais donc qui n'aurait pas été conservé. Et ensuite, le mobilier funéraire était réparti autour du corps.
Et il était seul toujours ou il y avait des familles? Comment est-ce qu'on pouvait retrouver ces histoires?
Alors, dans la plupart des cas, le défunt occupait seul la chambre. Mais dans un cas, un couple a été inhumé dans la même chambre, apparemment à deux moments différents. C'est-à-dire que la tombe a dû être réouverte, ce qui signifie qu'elle était matérialisée au sol.
Peut-être un monument.
Voilà, il y avait certainement au moins un alignement de pierres à la surface de la tombe, donc la tombe pouvait être réouverte après un certain temps pour y ajouter l'épouse du défunt.
Et ceci seulement sur les 13 tombes qui ont été découvertes, cette dualité n'arrive qu'une seule fois.
Oui, c'est ça.
Oui. Ce mobilier funéraire, vous avez dit qu'il était très luxueux, à quoi correspond-il?
Alors vous aviez tout d'abord les bijoux que portait le mort sur lui au moment des funérailles. Par exemple, ici, nous avons présenté, donc parmi les 6 objets que le musée des civilisations anatoliennes d'Ankara nous a prêtés pour cette occasion, nous avons sélectionné un diadème, un des quelques très beaux diadèmes des tombes d'Ala Choyuk. Donc celui-ci était en position sur le crâne. Il était encore placé sur le crâne du défunt au moment des fouilles.
Sait-on si c'était un homme ou une femme ? Parce que, est-ce que les bijoux étaient aussi portés par les hommes à cette époque-là ?
Alors pour ce qui est des diadèmes, tout porte à croire qu'ils pouvaient être aussi bien portés par des hommes que par des femmes. En l'occurrence, ici, ce diadème a été retrouvé dans la tombe A de la nécropole. Et les autres objets laissent penser qu'il s'agissait d'une tombe féminine, puisqu'on a retrouvé dans cette tombe un lot de 8 épingles en or, un miroir en bronze, un peigne en argent, ainsi qu'un trousseau d'aiguilles dans un petit étui en argent.
Oui, des symboles de féminité. Ce que j'admire dans ce diadème, c'est le travail du filigrane. Et c'est effectivement déjà connu à cette époque-là.
Alors, si on observe de près ce diadème, on se rend compte qu'on n'a pas affaire véritablement à la technique du filigrane, mais plutôt à une imitation. C'est-à-dire que avec des moyens extrêmement simples et en même temps limpides, astucieux, on a ajouré une bande d'or pour former des petits croisillons.
Oui.
Et on l'a ensuite embouti par l'arrière pour former des ponctuations en ligne qui imite la granulation, qui était donc connue à l'époque en Mésopotamie du Sud et dont les artisans d'Ala Choyuk avaient eu connaissance.
Oui, c'est extrêmement raffiné. Et c'est comme ces petites figurines qui sont des broches, des éléments de collier, qu'est-ce que ça représente ?
Alors, nous avons voulu présenter également un élément de décor vestimentaire. Il s'agit ici d'une petite plaquette qui faisait partie d'une série de 5 petites plaquettes représentant chacune 2 silhouettes féminines accolées. On voit donc représentées de manière très schématique dans une convention de représentation qu'on retrouve également dans les statuettes. C'est-à-dire qu'on peut présenter la tête féminine sous forme d'un demi-cercle. On présentait les bras tombant également en arc de cercle. Et quant aux membres inférieurs, ils sont représentés de manière schématique, comme d'ailleurs dans les idoles cycladiques donc de la mer Égée, par également un demi-cercle un peu allongé. Et le décor est fait uniquement de ponctuations réalisées au repoussé.
Qui sont aussi symboliques de la femme, puisqu'on voit une poitrine et puis peut-être un ventre.
Le sein, le nombril et peut-être le pubis. Les perforations qui se trouvent au niveau des épaules permettaient de coudre ces appliques sur le vêtement. Peut-être au niveau de l'encolure.
À côté, nous avons une aiguière et une coupe extrêmement fine, très élégante. À quoi pouvaient-elles servir et en quoi sont-elles fabriquées ?
Alors, ces deux éléments de mobilier faisaient partie de la vaisselle qu'on a retrouvée dans de nombreuses tombes d'Alacha, alignées devant la face du défunt. Et donc, nous avons ici une aiguière et une coupe à pied qui sont toutes deux en or, réalisé là aussi avec une grande économie de moyens, mais avec une justesse et une pureté des lignes tout à fait exceptionnelles. Si nous prenons l'aiguière, elle a été réalisée avec une seule feuille d'or qui a été peu à peu martelée de manière à former la panse et ensuite former le col, la lèvre et l'anse qui a été ensuite soudée à l'épaule.
On voit, parce que vous avez eu l'astuce de mettre un petit miroir au fond de l'aiguière pour qu'on voit le travail. Il y a une étoile d'où jaillit toutes les autres gravures.
Voilà, en fait, l'ensemble de la panse est recouverte d'une série de colonnes de motifs en chevrons, c'est-à-dire de motifs triangulaires imbriqués les uns dans les autres et qui se rejoignent à la base de l'aiguière pour former un motif d'étoile de manière simple mais calculée, qui donne à cet objet une très grande finesse.
Mais c'est un travail extrêmement touchant par le côté simple et raffiné. Voilà. Alors, ces libations, c'était pour le défunt, pour quand peut-on imaginer ?
On a trouvé dans plusieurs cas une aiguière avec une coupe à pied. Et ce couple de vaisselle a été parfois interprété comme du mobilier de libation, qui était soit réalisé au moment des funérailles, soit qui appartenait au défunt et qui avait servi durant sa vie comme libation rituelle.
Et on lui donnait pour le voyage au-delà ?
Voilà.
Peut-être.
Toutes les interprétations sont les bienvenues.
Nous avons aussi une vitrine très étrange. Je crois que c'est du bronze, puisque nous sommes en période de bronze ancien, Je crois qu'il avait une particularité, ce bronze d'Anatolie centrale.
Alors, ce n'est pas du bronze stricto sensu, au sens où il ne contient pas d'étain, puisque le bronze est normalement constitué d'une grande proportion de cuivre et d'un peu d'étain. Et ici, nous avons affaire à du bronze à l'arsenic, c'est-à-dire donc un mélange de cuivre et d'arsenic, qui s'explique tout à fait par l'existence en Anatolie centrale de filons d'arsenic. Alors que justement l'étain nécessaire à la constitution du bronze n'est pas présent en Anatolie.
Alors est-ce que le bronze fait avec de l'arsenic est plus solide, moins solide? Qu'est-ce que ça lui donne comme caractéristique?
Alors, selon les proportions, les propriétés du métal sont différentes, mais on considère que le bronze à l'étain est plus facile à travailler et plus résistant après la fonte.
Devant nous, nous avons ce que je peux présenter comme un taureau ou un cerf, et puis un disque. Quelle est la représentation réelle de tous ces objets?
Alors, nous avons regroupé ici un représentant des deux types de ce qu'on a appelé les étendards d'Alajaoyuk. C'est un mobilier très particulier qui a été retrouvé dans cette nécropole, ainsi que sur quelques autres sites d'Anatolie centrale de cette période. Vous aviez d'une part ce qu'on pourrait appeler des enseignes animalières, des figures animales montées sur un support métallique. Dans ce groupe, on trouvait essentiellement des taureaux et également, dans quelques cas, des cerfs. Alors, ce qui caractérise le mieux cette série, c'est la grande stylisation des silhouettes animales. Ici, nous avons donc présenté un taureau, qui est représenté dans un style très affiné. Vous voyez que ses pattes sont très allongées, son corps est mince et son cou très haut porte une tête altière avec des cornes très stylisées également. Vous voyez l'économie de détails, très peu de détails sont représentés. Et pourtant, on a ici l'expression de toute la puissance de l'animal.
Oui, il y a un cerclage sur la croupe et sur les épaules qui fait un jeu esthétique uniquement, c'est pas du tout technique?
Non, pas du tout. C'est un des types de décors que portent ces figures animales d'Alajaoyuk. Ici, vous avez 5 bandes d'électrum, donc un mélange d'or et d'argent, qui ont été incrustées sur les épaules et sur le dos de l'animal. Dans d'autres cas, on peut retrouver des cercles concentriques ou encore un plaquage complet des cornes de l'animal ou du museau de l'animal.
En or?
En électron
toujours
également.
En électron, oui. C'est un animal qui est très très raffiné parce que ce principe masculin est aussi élégant que le principe peut-être féminin à côté. Non, c'est un disque qui n'a rien de féminin, c'est une utilité autre.
Oui, je pense qu'on ne peut pas aller trop loin dans l'interprétation.
Oui.
Vous avez ici un représentant de la deuxième série des étendards d'Alajaoyuk qui est constitué de disques ajourés, toute une série, donc beaucoup plus nombreux, de disques ajourés. Portant au centre du disque des motifs géométriques, une imbrication de motifs géométriques, des étoiles, des croix de Saint-André, des triangles. Et on trouve souvent à la périphérie de ces disques des petits anneaux, soit fixes, soit mobiles. Ici, ils sont fixes, mais dans certains cas, ils sont mobiles. Et on peut penser dans ces cas-là qu'ils devaient teinter quand l'objet était agité. Et vous voyez que pour ces deux types d'étendards, on a à chaque fois un système de fixation qui était coulé avec l'objet. Donc pour les disques, on a souvent des tenons. Et pour les figures animales, on a un pied très élaboré et qui a été conçu de manière très astucieuse en conservant les canaux d'aération qui étaient ménagés dans le moule au moment de la fonte de l'objet. Les canaux d'aération qui habituellement étaient coupés, ébarbés, et ensuite on limait les pattes de l'animal ou de la figure coulée. Et ici, les fondeurs d'Alaja ont décidé de conserver ces canaux pour en faire le socle de l'objet, ce qui est très astucieux.
Donc il était d'une solidité à toute épreuve parce qu'il était fait, il était moulé à la cire.
À la cire perdue
selon
le procédé de la cire perdue.
Et ébarbé après.
Et ici, très peu, il avait tous les éléments ont été conservés.
Alors, quelles sont les interprétations de l'utilité de ces objets?
Ces étendards ont fait couler beaucoup d'encre, ont donné beaucoup de soucis aux archéologues et en donnent encore aujourd'hui. Plusieurs interprétations ont été proposées dès la fouille. Les premiers archéologues, donc les archéologues turcs, avaient proposé d'y voir des éléments de décor du mobilier funéraire. C'est-à-dire qu'au moment des funérailles, le défunt était peut-être porté sur une banquette, la fosse était peut-être recouverte d'un dé la protégeant pendant la cérémonie. et ces éléments métalliques, ces enseignes auraient décoré les angles du dé ou les angles de la banquette funéraire. Alors par la suite, on a cherché d'autres interprétations, notamment Winfried Ortmann dans les années 60, qui a proposé d'y voir des éléments de décor de char.
D'accord, le char funéraire.
Le char funéraire, en se fondant sur des découvertes similaires dans d'autres tombes, et notamment dans la fameuse tombe de Maikop dont je vous ai parlé, et qui conservait les vestiges d'un char. Dans ces cas-là, les figures animales auraient décoré la caisse du char, tandis que les disques ajourés auraient pu être fixés sur le timon entre les deux animaux de trait, et pourquoi pas servir de passe-guide, d'anneau passe-guide, pour guider les rennes.
Je vois là une autre photo qui nous montre une enseigne circulaire avec un cerf et avec aussi peut-être deux passe-guides.
Oui, exactement. Nous avons représenté ici en photo une des plus belles enseignes des tombes d'Al-Hadja qui appartient à la série des disques ajourés. Vous voyez le disque constitué par un fil torsadé épais. Mais au lieu d'avoir au centre des motifs géométriques ajourés, vous avez un groupe figuré en ronde bosse et constitué d'un cerf au centre, avec ses bois très élancés, stylisés de la même manière que le taureau que nous avons ici. Et il est entouré de deux taureaux plus petits, qui sont tournés dans la même direction que lui. Et de chaque côté de ce disque se trouvent deux appendices qui ressemblent un peu à des cornes et qui auraient tout à fait pu servir à guider les rênes du char.
Oui, alors finalement, il nous reste encore à essayer de trouver une hypothèse, c'est qui étaient ces défunts ? Bien sûr que c'était des princes, mais étaient-ils princes du temporel, princes spirituels ou les deux ?
Alors c'est une question très difficile à résoudre et qui constitue là aussi un oui. Débat qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui nous porte plus généralement à réfléchir sur l'émergence du pouvoir dans ces communautés qui étaient au départ des communautés agricoles. Il est tout à fait vraisemblable que le développement des échanges de ressources minières, notamment pour la constitution du bronze et la réalisation d'objets somptuaires, a amené ces communautés à s'organiser d'une manière différente et à faire naître en leur sein des personnes capables d'organiser ces échanges, de garantir la sécurité des convois et de traiter directement avec les demandeurs en matière première. C'est certainement une des raisons qui a constitué l'émergence de ce qu'on appelle généralement des chefferies, avec donc un chef à sa tête, qui s'entoure d'une élite, une sorte de rang qui est mis en place autour de lui, et qui évoluera peu à peu vers un système princier ou royal selon les régions.
Et que peut-on penser de la religion de cet endroit-là, du Proche-Orient, à ce moment-là ? Pas grand-chose, parce qu'on est démunis.
On est démunis, faute de texte. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le néolithique, on a quand même des représentations assez cohérentes de différents principes. La figure de la déesse mère, on s'en souvient, est présente déjà sur le site de Çatalhöyük à la fin du 8e millénaire. La figure du taureau est très présente dès le néolithique, en Anatolie aussi bien qu'en Syrie, dans le reste du Proche-Orient, comme certainement le principe masculin de départ, et qu'on retrouvera ensuite comme animal attribut des dieux principaux dans les différents panthéons.
Et alors, dans ces tombes-là, y avait-il des armes ?
Dans les tombes masculines, celles qui ont pu être interprétées comme masculines, on a retrouvé plusieurs armes, notamment dans une tombe, on avait retrouvé une épée en cuivre, une épée en argent Et le premier exemple d'épée en fer, c'est-à-dire avec une lame en fer et un manche en or.
Premier exemple du Proche-Orient ?
Pour le Proche-Orient.
Pour le Proche-Orient, oui, c'est donc une découverte très intéressante. Premier objet en fer trouvé jusqu'à présent.
Voilà, première attestation de l'usage du fer dans le mobilier.
Et est-ce qu'il y a eu dans d'autres tombes, il y avait avoisinantes, j'entends, et il y avait aussi ce même type d'armes, ou bien est-ce que c'était toujours réservé qu'aux princes, les armes ?
Les sépultures, traditionnellement, dans l'Anatolie du Bronze Ancien, étaient extrêmement simples. Il s'agissait d'enterrer le défunt, soit en pleine terre, soit dans une jarre, mais dans tous les cas avec très peu de mobilier, éventuellement un petit peu de céramique. Donc ces tombes sont vraiment exceptionnelles par la nature du mobilier qu'on y a retrouvé, mais elles ne sont pas uniques. Dans d'autres tombes qui ont pu être fouillées à l'occasion de découvertes fortuites dans la région d'Alacha, je pense notamment à la nécropole de Marmatlar et à la tombe d'Orostepe, tout près d'Alachoyuk, on a retrouvé du mobilier similaire, à savoir des petites enseignes. À Orostepe, on a retrouvé une enseigne, une très belle enseigne au taureau, qui ressemble énormément à celle que nous avons ici, et également des aiguières et des coupes à pied, qui sont parfois retrouvées ensemble, comme dans certaines tombes d'Alachoyuk. Donc nous avons vraisemblablement affaire à des chefferies indépendantes les unes des autres, qui contrôlaient certainement un territoire, des sections de routes commerciales qui devaient certainement communiquer entre elles et qui jalonnaient peut-être des routes commerciales qui, vers la Syrie du Nord et l'Euphrate et le Tigre, pour alimenter la Mésopotamie, qui, vers l'ouest, vers la côte ionienne, pour alimenter la demande du monde égéen.
Oui, ils étaient placés sur une route fabuleuse, parce qu'entre la richesse de la Mésopotamie et puis la richesse du monde égéen, eux avaient un rôle à tenir avec leurs matières premières.
Voilà, et on pense d'ailleurs que avec la Mésopotamie, il a dû s'agir d'échanges, puisque la Mésopotamie avait la capacité de s'approvisionner en étain, peut-être par la côte d'Iran du sud-ouest, et donc pouvait avoir un moyen d'échanger avec l'Anatolie.
Oui. Une monnaie d'échange. Je crois que c'est une région qui a été tout à fait intéressante parce que des princes voisins...
Oui, l'empire d'Akkad, voilà. qui s'est constitué en Mésopotamie du Sud à partir des années 2340 avant Jésus-Christ, et qui a d'abord réalisé l'unification des différentes cités-états qui avaient prospéré dans cette région de Mésopotamie, a ensuite voulu s'étendre vers le nord, très vraisemblablement pour contrôler le commerce fluvial sur l'Euphrate et le Tigre, ce qui l'a amené à entrer en contact avec l'Anatolie, donc dans ces siècles des années 2340-2200 avant Jésus-Christ, peut-être par l'intermédiaire de quelques fameuses cités, comme la cité de Marie ou celle d'Ebla, située en Syrie, donc Marie sur le cours de l'Euphrate, et qui ont pu, ces cités ont pu jouer le rôle d'intermédiaire ou d'organisateur des flux commerciaux venant de l'Anatolie centrale et orientale. J'en profite pour vous montrer dans cette salle qui est occupée par les statues de Goudéa, bien connues. Nous avons ici ce qu'on appelle la stèle de Naram-Sin. Naram-Sin était le quatrième roi d'Akkad, certainement le plus puissant de cette dynastie d'Akkad. Il a dû régner aux alentours de 2250 avant Jésus-Christ et il était le petit-fils du fondateur de la dynastie, Sargon d'Akkad. Naram-Sin a porté au plus haut point la puissance de l'empire d'Akkad, ce qui l'a amené à se hisser au rang des dieux de son vivant. C'est une des caractéristiques de ce souverain qui s'est fait représenter de son vivant à la manière des dieux, portant un casque à cornes, l'attribut des dieux. Et on le voit représenté sur cette stèle en train de mater une rébellion des montagnards. Car dans un si grand empire, les rébellions et les révoltes ne devaient pas être rares.
Surtout des montagnards qui connaissaient tellement bien leur région qu'ils se sentaient un peu des résistants.
Voilà, ici c'est la représentation d'une révolte des Louloubis, montagnards du Zagros, donc à l'est de la Mésopotamie. Naram-Sin est certainement beaucoup intervenu dans le nord de la Syrie, dans la région de la Djezirée, pour sinon contrôler, du moins stabiliser les relations commerciales avec l'Anatolie. Et c'est à lui qu'on attribue des interventions militaires musclées dans la région, notamment la destruction de Marie, la ville 2 de Marie, aux alentours de 2300-2250. Également la destruction d'Ebla, qui avait connu sa période d'apogée, au niveau 2.
Serait-il allé jusqu'à Al-Zayouk ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi
pas ? En tout cas, nous n'en avons conservé aucune trace. Aucun document écrit de cette période n'a été retrouvé en Anatolie centrale. En revanche, on a des traces d'une politique matrimoniale des souverains d'Akkad, un peu plus au sud, dans la région qui se trouve aujourd'hui à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Nous avons dans les collections du Louvre un clou de fondation accompagné d'une tablette au nom du souverain Tishatal, donc roi d'Urkish, qui a épousé une fille de Naram-Sin. Cette intrusion akkadienne dans la politique locale est certainement à mettre sur le compte d'une volonté de stabilité et d'une présence, sinon militaire, du moins politique dans la région.
Oui. Il y a des bijoux qui sont très symptomatiques de notre époque aussi, des colliers, d'autres choses qui n'étaient pas dans les sépultures.
Alors, on compare souvent les tombes d'Ala Çayyük avec les très célèbres tombes royales d'Ur. Donc, Ur, c'est une cité du sud de la Mésopotamie, où les fouilleurs anglais ont découvert, dans les années 20, des tombes royales, toute une série de tombes qui contenaient un mobilier extrêmement riche, un mobilier d'or, d'un très grand raffinement, qui est conservé actuellement au musée de Bagdad et au British Museum. Ces tombes des rois d'Ur sont légèrement antérieures à celles d'Ala Çayyük. On les date entre 2600 et 2500 avant Jésus-Christ.
C'est l'Ur d'Abraham ?
Voilà, c'est oui. L'Ur en Chaldée, selon la Bible.
On passe dans une monumentale salle.
Voilà, nous passons dans la cour Khorsabad, qui a été décorée des reliefs du palais de Khorsabad, donc qui date de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, un palais néo-assyrien, avec de magnifiques reliefs, des taureaux gardiens de portes, et le fameux relief du transport du bois de cèdre, le cèdre du Liban, qui a été transporté par bateau pour alimenter les programmes architecturaux des rois néo-assyriens.
Et qui, de ce fait, maintenant, ont dévasté le Liban. Enfin, c'est pas eux seulement, mais toutes les générations ont utilisé ces cèdres du Liban,
voilà,
en Napoléon
le
dernier.
Oui. C'est une ressource célèbre et très intensément sollicitée.
Oui, trop. Alors voilà, ces bijoux.
Voilà, nous conservons au musée du Louvre quelques bijoux qui sont d'une production similaire à ceux qui ont été retrouvés dans les tombes royales d'Ur. Donc des colliers faits de perles d'or alternant avec des perles de lapis, des pendentifs en or représentant des feuilles, des motifs de feuilles, des grandes boucles d'oreilles en forme de croissant lunaire.
Et puis,
nous avons un
étendard.
Voilà, qui permet de faire un lien intéressant avec les étendards d'Ala Çayyük. Nous avons acquis il y a quelques années ce qu'on appelle un anneau passe-guide, donc un élément à la fois décoratif et utilitaire qui permettait de guider les rênes d'un char et qui porte à son sommet une représentation de taureau. Mais un taureau, vous le voyez pas du tout dans les conventions stylistiques d'Ala
Çayyük. Plus épais.
Plus épais, beaucoup plus naturaliste, plus proche de l'image naturelle d'un taureau.
C'est du bronze aussi.
Voilà, c'est du bronze.
Et ça, c'est peut-être du bronze à l'étain, et non pas à l'arsenic.
Vraisemblablement, oui. Aucune analyse n'a été faite sur cet objet, mais il s'agit vraisemblablement de bronze à l'étain.
Eh bien, on constate effectivement, avec toute cette richesse, qu'il y avait un sens artistique très développé dans ces régions-là, et religieux très développé.
Cette présentation qui a été rendue possible par le prêt de ces six magnifiques objets du Musée des civilisations anatoliennes d'Ankara nous permet de, encore une fois, poser des questions sur cette fameuse nécropole d'Ala Çayyük, sur l'origine de cette population, sur l'interprétation du mobilier, des rituels funéraires, et permet de mettre l'accent sur la richesse de ces tombes, sur la grande technicité des métallurgistes et des orfèvres dans cette région, plus généralement sur l'opulence de ces chefferies qui se sont mises en place dans l'Anatolie centrale à l'âge du bronze ancien, donc entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ.
Et on voit bien le mélange entre le politique et le sacré.
Voilà, sans pouvoir distinguer les parts civiles et religieuses du pouvoir de ces chefs.
Merci.
Merci.